Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous continuons aujourd'hui notre série de discussions sur le thème de la réconciliation.
La réconciliation est un thème biblique qui apparaît surtout dans les écrits de l'apôtre Paul. En compagnie de notre invité Claude, nous chercherons à mieux comprendre l'enseignement de l'apôtre à ce sujet. Claude, bonjour.
Merci Yann et bonjour à tous. Nous arrivons aujourd'hui à la dernière de nos discussions sur le thème de la réconciliation présentée dans les écrits de l'apôtre Paul. Jusqu'alors, nous avons surtout parlé de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons étudier des versets assez surprenants dans lesquels nous découvrirons une toute autre dimension de la réconciliation. Cédons la parole à notre lectrice pour la lecture de la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1, les versets 15 à 22.
Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toutes choses, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui.
Merci. Claude, ce texte oriente nos regards vers la personne de Jésus-Christ dans toute sa gloire et sa plénitude.
Tout à fait, Yann. Mais notons aussi que le mot « réconciliation » apparaît deux fois dans ce texte. Il se trouve vers la fin en évoquant notre propre réconciliation avec Dieu. En effet, Paul affirme que dans le passé, nous étions exclus de la présence de Dieu. Nous vivions loin de lui à cause de tout ce qui est mauvais en nous. Toutefois, comme nous l'avons déjà appris lors d'émissions précédentes, Dieu nous a réconciliés à lui par le sacrifice de Jésus-Christ, par lequel nous obtenons le pardon de nos péchés. Cependant, le mot « réconciliation » apparaît dans un tout autre contexte, quelques versets avant. Paul déclare en effet « C'est en Christ que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers entier. »
C'est effectivement assez étonnant de penser que l'univers entier a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Comment comprendre ce verset?
À première vue, il n'est pas forcément facile de comprendre le sens de ce verset. Pour en saisir le sens, nous avons besoin de remonter au tout début de l'histoire des hommes qui se trouve dans la Bible, dans Genèse chapitre 3.
Dans Genèse chapitre 3, nous apprenons comment Adam et Ève ont désobéi à Dieu pour la première fois.
C'est exact, Yann. Et nous y découvrons aussi toutes les conséquences désastreuses de cet acte de désobéissance. Nous savons en effet que c'est dans le jardin d'Éden qu'a eu lieu, pour la première fois, cette rupture de relation entre l'homme et Dieu, et que c'est suite à cette désobéissance qu'Adam et Ève ont été bannis du paradis.
Puis d'autres conséquences terribles se sont rajoutées à le bannissement du paradis.
C'est vrai, Yann. La désobéissance d'Adam et d'Ève a généré des conséquences sur la création entière. À l'origine, l'homme vivait en harmonie avec la nature. Cependant, après sa chute dans la désobéissance, la nature s'est retournée contre lui. Dans Genèse chapitre 3, au verset 17 à 19, Dieu annonce à Adam « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré. Voyez-vous, à cause du péché, la nature devient un environnement difficile et même hostile. L'harmonie qui existait entre l'homme et la nature s'est brisée. La création est devenue perturbée et déréglée. Dans Romains, chapitre 8, Paul affirme que la création vit la corruption et la frustration et qu'elle gémit en attendant sa délivrance.
Merci. Et nous pouvons constater encore de nos jours que l'homme et la nature sont en conflit l'un avec l'autre.
Eh bien oui, l'homme lui-même, par sa mauvaise gestion, sa négligence et son égoïsme, a contribué à la dégradation de la nature. Il a déclenché des problèmes environnementaux. Nous pouvons citer la pollution de l'air et des eaux et la dégradation des sols. Nous pouvons constater aussi les dérèglements climatiques qui deviennent de plus en plus évidents. D'un autre côté, nous remarquons aussi que la création se retourne contre l'homme. Nous pouvons évoquer par exemple les maladies de tout genre, les virus et les bactéries, comme le paludisme transmis par les moustiques. Nous pouvons aussi citer les catastrophes naturelles qui occasionnent de très lourdes souffrances, les sécheresses, les inondations ou bien les tremblements de terre.
Merci de nous avoir rappelé cette hostilité qui existe entre l'homme et la nature. Mais quel est le rapport avec les propos de Paul dans sa lettre aux Colossiens?
Quand Paul dit que Dieu va réconcilier l'univers entier avec lui-même, je pense qu'il évoque cet état de choses. Autrement dit, les desseins de Dieu vont bien au-delà de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Ce verset affirme que Dieu va restaurer la création à son état originel et que l'homme et la nature vivront un jour de nouveau en harmonie sous le règne souverain de Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu va délivrer non seulement l'humanité, mais aussi la création.
De nos jours, notre environnement naturel se détériore rapidement. Quand viendra la délivrance ou la réconciliation dont Paul parle?
La Bible enseigne que cela se passera au moment du retour de Jésus-Christ. En ce temps-là, il fera toutes choses nouvelles. Il y aura une nouvelle création, et celles et ceux qui se seront réconciliés avec Dieu y vivront éternellement. Dans cette nouvelle création, l'humanité, c'est-à-dire celles et ceux sauvés en Christ, avec la création et Dieu, vivront ensemble en parfaite harmonie, dans la paix, la sécurité et l'abondance. De plus, on ne verra plus ni le mal ni le malheur dans cette nouvelle création, car les puissances maléfiques ainsi que les hommes non repentis en seront exclus et bannis. C'est ainsi que nous comprenons le projet de Dieu, de réconcilier en Christ toutes choses, c'est-à-dire l'univers entier. Les bonnes relations entre Dieu, sa création et son peuple seront rétablies. Nous jouirons enfin de la vie et vivrons en paix. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu nous a créés.
Claude, c'est sur cette note d'espérance que nous terminons cette série de discussions. Nous vous remercions pour votre participation enrichissante.
Merci Yann et merci à tous pour votre écoute. C'était pour moi un plaisir. Alors, au revoir et que Dieu vous bénisse.
Merci Claude. Maintenant, le moment est venu de commencer notre courte méditation biblique. Nous revenons à la première lettre de l'apôtre Jean et nous arrivons en fait au dernier verset de ce livre biblique. Il s'agit du verset 21 dans le chapitre 5. Sandra va nous le lire Et ensuite, Didier nous fera part de ses réflexions.
Mes chers enfants, gardez-vous des idoles.
Merci et bonjour à tous. Ces paroles peuvent paraître un peu étranges pour conclure une lettre. Il s'agit sûrement d'un rappel ou d'un avertissement important. Jean a fait circuler sa lettre parmi des chrétiens vivant en Asie mineure au 1er siècle de notre ère. À cette époque-là, les chrétiens formaient encore une petite minorité et la plupart des gens autour d'eux pratiquaient l'idolâtrie. Il y avait dans les villes des temples dédiés à des dieux très divers. La superstition était dans les mœurs. Les devins et les sorciers occupaient une place dans la vie de tous les jours. Beaucoup d'amis vivent dans un tel contexte. Il est donc pertinent de rappeler l'enseignement des apôtres à ce sujet. Selon leurs écrits, le chrétien doit se garder de toute pratique idolâtre. Est une idole tout objet que nous révérons ou craignons, au lieu de révérer ou de craindre le seul vrai Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. L'idolâtrie consiste à manipuler ou à contrôler un esprit en vue d'obtenir quelque chose plutôt que de faire confiance au seul vrai Dieu qui est tout-puissant. En nous tournant vers le Dieu de vérité, nous devons nous détourner des idoles car elles sont mensongères. Cependant, la Bible affirme que toute chose ou toute personne qui prend une importance au point de nous éloigner de Dieu ou nous compromettre devient une idole. La recherche excessive de richesses et de biens, l'ambition démesurée d'exercer un pouvoir sur les autres, la poursuite de rapports sexuels et relations illicites peuvent ainsi devenir une idole. Et nous devons nous garder de ces idoles-là. Jean a écrit sa lettre pour convaincre les croyants de vérité fondamentale. Jésus est le Fils de Dieu et c'est en lui seul que se trouve le pardon des péchés et la vie éternelle. Puisque Jésus est le Fils de Dieu, c'est lui que nous devons adorer et non pas les idoles. Puisque Jésus est le Fils de Dieu, c'est en lui que nous devons placer notre foi et non pas dans les idoles. Enfin, Jean a déclaré que Jésus est venu pour triompher des œuvres du diable. Il est donc venu pour nous délivrer de toutes les conséquences malheureuses que la pratique de l'idolâtrie a occasionnées dans notre vie. Oui, mes chers amis, gardez-vous des idoles et attachez-vous à Jésus-Christ.
Merci Didier pour cette exhortation importante et merci aussi pour votre participation tout au long de cette série.
Dès notre prochaine émission, nous reviendrons sur notre étude du livre de l'Exode. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.